Salut les princesses, une nouvelle édition du New Breakfast Club avec les habituels Maria Kerr et Sonny Kerrick. Alors que nous présentes-tu comme nouveauté?
Alors je vous proposais, alors c'est un exercice un petit peu particulier, je vous proposais une nouveauté sur un disque pas très bien.
Ah
oui, pourquoi pas, après tout on va pas toujours faire dans l'excellence. Mais c'est un groupe plutôt plaisant, c'est Metric, c'est un groupe canadien, je sais pas si tu vois qui sont ces jeunes gens.
Absolument pas, mais tout à l'heure je verrai mieux.
C'est la nouvelle sensation canadienne.
On parle beaucoup des Canadiens en ce moment,
à l'occasion de leur deuxième album. Ils étaient en France, on les a surtout découverts grâce à Olivia Sayas dans son film Clean. Où ils avaient un groupe qui était en live dans le film, et c'était Metric justement, avec un morceau qui devait s'appeler Dead Disco. Le premier album était vraiment très très bien fichu, et voici déjà le deuxième, et qui est particulièrement décevant. Et au cœur de tout ça, je vous ai choisi malgré tout.
De toute façon, on vous en vendra pas au kilo, Metric.
Voilà, non, bien sûr que non. Je vous ai choisi le meilleur morceau, donc libre à vous de juger de ce qu'il y a derrière.
Un morceau qui mérite un bon coup de trick, hein, ce morceau de Metric. Moi, ça m'accroche.
Si tu veux
pas
faire que des vannes comme
non,
jusqu'au
bout.
Non,
c'est la dernière. Je jure. Mais là, je sais pas, j'avais quelque chose avec
non,
ce,
mais je t'en prie.
Groupe-là.
C'est vrai que l'album est vraiment, vraiment décevant. Donc, l'album de Metric s'appelle Leave It Out. Et là, on vient d'écouter Glass Ceiling. Et je vous conseille l'album précédent dont je me rappelle pas exactement du titre. Ça doit être Old World Underground, mais j'en suis pas certain.
Enfin, tu nous rassures, on en écoutera plus dans le New Breakfast
Club. Non, de cet album-ci, je vous assure que le précédent était vraiment bien en revival, Blondie. Enfin, il y a pas mal de groupes, même en Suède, comme New, par exemple, qui font ce genre-là. Et c'était mieux gaulé sur l'album précédent.
Alors pour ma cover de la semaine, j'ai...
Tu vas tenter de relever le niveau, donc.
J'ai choisi un projet assez intriguant. Alors, c'est pas vraiment une nouveauté. Ça date de la fin de l'année 2005, la fin de l'année dernière. Et il s'agit d'une rencontre a priori impossible entre la musique de chambre et un groupe qui a quand même commencé dans le technopop, Depeche Mode.
Oui,
il s'agit d'un artiste très, très singulier, Sylvain Chauveau, qui est dans la même scène électro que Sébastien Schuller.
Ouais, ouais, ah,
on peut
fait,
le,
ouais,
peut le placer.
Ouais, qui est dans plein de projets électro-minimalistes, ouais.
Qui s'est entouré d'un ensemble de chambristes, l'ensemble Nocturne, et qui a choisi les morceaux les plus sombres, les plus introspectifs de Depeche Mode. Il y en avait dès les premiers disques, toi qui es un spécialiste de l'œuvre de Martin Gore. Tu pourrais nous dire ça mieux que moi. Et donc il leur donne un ton, un traitement très très automnal et très séduisant, et surtout
très réussi, de manière très réussie. Oui.
Et que des Français puissent avoir la liberté, l'audace de faire ça, c'est quelque chose qui me plaît bien à moi. You had something to hide. You should have hidden it, shouldn't you? Now you're not satisfied with what you've been put through. Now it's time to pay the price of not listening to advice, deciding in your youth on the policy of truth. Things could be different now. It used to be so civilized. You will always wonder how it could have been if you'd only lied. It's too late to change events. It's time to face the consequence for delivering the proof in the policy of truth. Never again, it's what you swore the time before. Never again, it's what you swore the time before. Now you're standing there tongue-tied. You'd better learn your lesson well. Hide what you have to hide and tell what you have to tell. You'll see the problems multiply if you continually decide to faithfully pursue the policy of truth.
C'est bien ça, dis-moi.
Oui, c'est bien. Et puis, ce qu'on disait un petit peu hors antenne, c'est que ça devient une habitude, c'est que la réalisation est bien aussi. Il y a pas, l'idée est excellente. L'idée
bien
de
sûr,
départ est une idée absolument magnifique, mais il y a un très très beau son, un soin accordé à la production.
Ouais, le seul bémol que j'émettrais, mais finalement ça m'est venu là en l'écoutant, c'est que la voix de Sylvain Chauveau est peut-être un petit peu trop proche de celle de Dave Gahan. Donc on garde une il y a quelque chose de familier, c'est
peut-être qu'il aurait fallu une voix féminine.
Ouais, ça je
serait
pense,
une
idée,
ouais. Celle des Legend Fields ou
de Jennifer Charles par exemple. Oui, c'est vrai, parce que ça rompt pas assez peut-être le fait d'avoir une voix qui est pas si lointaine, mais bon, c'est un projet très 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 bien fichu, très réussi.
Il faut redire le titre de cet album si vous voulez l'acheter, si vous voulez vous le procurer. Je pense que ce sera pas simple pour vous, mais en passant par le net,
les commandes,
ça devient moins difficile. L'album s'appelle Down to the Bone, et donc c'est un album de Sylvain Chauveau avec l'ensemble Nocturne, et le morceau que vous avez eu la chance d'écouter sur Radio Collège,
c'est Policy of Truth,
extrait de l'album Violator. Extra, extra, read all about it, the pinball wizard and the miracle cure. Extra, extra, read. read all about it. Extra. Alors, une revue de presse un petit peu
morose,
un petit peu funèbre après la disparition de Wilson Pickett la semaine dernière, qui n'avait pas été salué sur cette antenne.
Ben non, parce qu'on l'a su en sortant du studio quasiment.
Oui, voilà. Ouais. Donc on avait une bonne excuse, mais là nous n'aurions pas eu d'excuse en ne parlant pas. Et les Inrecuptibles se chargent d'en parler. Ils se sont chargés d'en parler avant-hier, et ils étaient parmi les seuls parce
les
que
seuls, oui.
J'ai pas l'impression que la mort de Shelley Winters a fait les grandes lignes, et pourtant c'était une des actrices à la langue la mieux pendue d'Hollywood.
Sacrément, oui.
Une des actrices qui a eu le plus de projets intéressants en période où Hollywood était en train de se remettre en question.
Elle était
souvent
dans les bons coups. Ouais.
Elle est toujours dans les bons coups. Elle est quand même avec Lillian Gish, la principale actrice du chef-d'œuvre de Charlottetown, La Nuit du Chasseur.
Absolument.
Ne serait-ce que ça. Elle,
Lolita.
Elle joue dans Lolita. Elle joue dans Une Place au Soleil de George Stevens. Elle joue dans Winchester 73 d'Anthony Mann, Le Grand Couteau de Robert Aldrich, Le Coup de l'Escalier de Robert Wise.
Ouais, c'est un bon CV tout ça.
Ouais, ça fait pas mal, mais on finit par oublier que même ces actrices qui sont immortelles sur pellicule restent des créatures mortelles dans la vraie vie.
En même temps, elle avait plus 20 ans. Hein.
Non, elle avait 85 ans. Non, elle était née au mois de janvier, donc ça lui faisait 86 ans. En plus, elle avait ce type d'actrice qui était pas assez jolie pour être glamour, pour être cantonnée dans les rôles glamour. Ce qui fait que très rapidement, elle s'est retrouvée, elle a brillé dans des rôles de ménagère perverse où elle est.
Ouais, elle était souvent
Donc c'est une des disparitions, et l'autre qui m'attriste,
à part Chris Penn qu'on a appris donc tout récemment, parce que là c'est ça date de
qui m'attriste, et c'est aussi dans les Inrecuptibles d'avant-hier, c'est la mort du chanteur de Lily Drop. Alors c'est vrai que Lily Drop, on en avait plus entendu parler depuis les années 80. Ils avaient fait deux albums simplement, mais un single immaculé sur Ma Mob, et puis Olive, personnage un petit peu génial, mais frayant dans les milieux interlopes, comme
c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais.
On peut dire ça
dans une
comme
veine
ça.
Jade Villot, Daniel Darc, enfin ce sombre là.
Voilà, des gens qui préfèrent se consumer plutôt que de rouiller.
Bien sûr. Hein,
pour reprendre la métaphore jungienne. Eh bien, voilà, il est mort. Il avait juste 50 ans et d'une tuberculose. Il avait reformé vaguement Lily Drop l'an dernier, mais surtout il avait un nouveau groupe. Il espérait reprendre la route, mais voilà, la grande faucheuse l'a pris avant.
Ouais, c'est bien mieux pour la légende.
Un nouveau tour de oui, avant un nouveau tour de mobilette.
Bien, bah, passé ces tristes nouvelles, on va prendre notre sujet du jour à bras le corps, qui est, je vous le rappelle, on vous l'avait évoqué la semaine dernière, de traiter des œuvres méconnues dans un catalogue pourtant brillant. C'est-à-dire, on a choisi des artistes en pleine possession de leurs moyens, maîtrisant leur succès, et qui, d'un seul coup, ont une œuvre. Alors là, en l'occurrence, ça va être un film ou un album qui est plus méconnu. C'est pas qu'il soit nécessairement plus mauvais, mais qui d'un seul coup est moins sur le devant de la scène,
correspond moins aux attentes du public.
Oui, parmi les raisons de ce plus grand anonymat, ça peut être ça. Ouais,
ou aussi parce qu'ils prennent, moins, ouais. Ou parce que les artistes dont nous allons parler prennent leur public à contre-pied. Ça peut être
voilà,
aussi.
Voilà. Enfin, donc c'est souvent des articulations dans leur carrière, des choix qui font qu'un, alors qu'ils sont vraiment sur le devant de la scène, ils ont des œuvres qui sont plus secrètes, quoi.
C'est pour ça que tu avais titré cette émission
l'arbre qui cache la forêt, absolument. Oui. Et donc j'avais évoqué le fait de parler par exemple de Truffaut et de son film Une belle fille comme moi. Malheureusement, il est tellement peu visible que j'ai pas réussi à le voir dans la période qui m'était incombée. Mais je vais vous parler quand même de Truffaut, qui cinéaste célèbre s'il en est, et qui a malgré tout parmi toute sa filmographie 6 ou 7 titres qui sont vraiment plus méconnus que les autres. Il y en a 4 qu'on peut ranger parmi ces grands films malades, ces grandes œuvres mélancoliques qui qui jouissent pas d'une grande popularité, mais qui ont souvent un culte assez fervent, assez précieux. Je pense à La Peau Douce, Aux Deux Anglaises et le Continent,
oui,
La Chambre Verte,
même, ouais.
Ou la femme d'à côté, qui sont donc, ouais, ce qu'il a lui-même appelait les grands films malades chez les autres. Ça serait un peu cela, les
siens.
Ouais,
mais la femme d'à côté a rencontré son public un petit
peu
à la sortie.
Oui, mais c'était déjà éteint, c'était déjà tardif. Le dernier métro, par exemple.
Oui, mais La Femme de côté, c'était le premier film avec Fanny Ardant aussi. C'était une.
Certes, oui, mais c'était son avant-dernier à lui en même temps. Donc il y avait déjà quelque chose de. Il a rencontré son public en même temps. Si tu fais un audit dans la rue et que tu demandes 10 films de Truffaut, je doute qu'il soit dans ces 10 là. Très très honnêtement.
C'est juste pour le plaisir de titiller.
Trois autres qui sont assez méconnus, à mon avis, sont La Sirène du Mississippi. Une belle fille comme moi et L'Argent de poche, donc dont je vais vous parler par défaut, mais c'est pas plus mal parce que L'Argent de poche, en fait, il est assez méconnu et c'est presque une injustice parce que il recoupe vraiment grand nombre de thèmes et de formes qui sont chers à Truffaut, mais il a pas plus percuté que ça. La Sirène du Mississippi, c'est aussi étrange qu'il ait pas plus marché non plus, parce qu'il y a quand même un casting brillantissime à l'époque, hein, c'est Catherine Deneuve et Jean-Paul Belmondo, et c'est pareil, ça a pas eu un grand écho, et c'est un film qui est facilement oublié parce que Truffaut est plutôt reconnu et
ce qui est intéressant, c'est qu'il est plutôt reconnu pour ses films parisiens. Les films dont tu parles sont souvent des films provinciaux.
Absolument.
C'est intéressant,
voire
parce que regarde
La Sirène du Mississippi, ça se passe
Les 400 coups, Baiser volé, sont des films éminemment parisiens.
Ouais.
Alors que L'Argent de poche dont tu vas parler se passe à Thiers, petite bourgade du centre France.
Absolument, oui. Et donc alors, L'Argent de poche, c'est sorti en 76. C'est un film qu'il a réalisé juste après l'intense et austère Adèle H, dont il voulait prendre des vacances, hein. C'est-à-dire que le tournage avait été suffisamment raide et éprouvant pour qu'il fasse quelque chose un peu plus léger. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'il use de ce parallélisme, parce qu'après Les Deux Anglaises et Le Continent, qui était aussi un film assez raide, hein, faut ouais. avouer.
L'histoire d'Adèle H, c'est presque Guindé même, hein. Tout à midonner.
Ouais. Hein. Ouais, mais je pense que l'hystérie du personnage devait être rejaillir aussi sur le tournage, très certainement. Et donc après Les Deux Anglaises, il avait fait Une Belle Fille Comme Moi, qui était aussi un film léger, voire son plus léger d'après la légende, parce que j'ai pas pu le vérifier. Et donc ce film est pourtant truffaldien en diable, hein, dans la mesure où il offre une forme de film qui est très très proche de la nuit américaine, c'est-à-dire qu'il y a pas de scénario, de trame narrative principale, c'est vraiment
une suite de petites scénettes.
Une suite de scénettes, oui, c'est un film en constellation, à construction gravitationnelle, comme il disait. C'est-à-dire qu'il a un noyau, il a un cœur qui est un personnage qui va être un petit peu récurrent, mais le film tourne sur lui-même, vraiment, il n'y a pas de trame précise. Peut-être que c'est ça aussi qui a égaré les spectateurs à l'époque. Mais c'est une vraie piqûre de rappel des errances de l'Antoine Douanel enfant, mais aussi des difficultés sociales de Victor de Laveyron, par exemple. Il y a vraiment toutes ces thèmes-là,
oui,
qui reviennent.
On retrouve, il y a un enfant sauvage dans les...
Il y a un enfant sauvage, ouais. Parce qu'il y a un enfant battu cette fois-ci, ouais. qui s'intègre pas à la société des enfants, ni à la société en général d'ailleurs. Il y a vraiment beaucoup de récurrences, quoi. Et alors, pour parfaire le référentiel de ce film d'ailleurs, le titre de travail, c'était La Peau Dure. Il avait songé à appeler le film La Peau Dure, en référence donc à La Peau Douce. Il avait ensuite songé à l'appeler Abel et Câlin, qui était assez rigolo. Parce que L'Argent de poche, je trouve pas ça très bon comme titre. Ni comme titre, et surtout, c'est pas très, je trouve que ça représente pas grand chose par rapport
oui,
au film.
Oui, mais.
Même si l'argent est très présent, hein.
Si je peux me permettre. Tu es un petit peu plus jeune que moi. Et c'est.
Oh, combien?
Et c'est à cette époque-là que l'expression est apparue. C'était une expression à la mode à l'époque. Pour la première fois, on donnait on est dans une période où si la crise commence à faire sentir ses effets, mais où il y a quand même une classe moyenne triomphante au niveau du goût et au niveau de l'éducation, elle commence à donner un petit peu d'argent de côté aux enfants. Il y avait des grands débats là-dessus à l'époque, et je me souviens très très bien parce que c'était une vraie revendication vis-à-vis de mes parents.
C'était quoi?
Je me
c'était
souviens
10 balles
le...
Tu demandais 10 balles?
Oh, moins que ça. 5 francs.
5 francs.
5 francs. Je prends mon premier argent de poche, c'est 5 francs. Et
d'accord.
Ça doit être au moment de l'argent de poche. Donc, c'est 76 la sortie.
Ouais, c'est ça.
J'ai 9
ouais.
ans. Tu vois, voilà. Et ça apparaît à ce moment-là, l'argent de poche.
Donc, t'es carrément la génération concernée par le film. Parce que les enfants, enfin,
j'ai
le gros de la.
Ah,
gros
bah, j'ai l'âge
la...
du rôle, moi.
Ouais, le gros du casting, c'est ça, ouais.
Sont des enfants qui sont nés entre 1965 et 1968.
D'accord.
Ouais.
Bah, alors, si historico-sociologiquement, ça se coûte.
Donc, moi, je remercie même Truffaut d'avoir donné ce titre-là au film.
Pour tes 5 balles. Voilà. Mensuel, quand même.
Oui, voilà, 5 balles mensuel.
Ouais, donc avec ce film, Truffaut voulait dessiner une chronique unanimiste de l'enfance, et il voulait vraiment faire le balayer du premier biberon au premier baiser. Et donc en observant l'enfance au kaléidoscope, il brosse une série de scènes qui sont souvent très plaisantes. Il y en a d'un peu plus graves, mais et puis des carrément loupées. Mais dans l'ensemble, le progestien, ouais. Et parmi ces scènes, moi j'en ai choisi une que je vais vous faire entendre. C'est celle où la petite Julie, qui est une gamine un petit peu capricieuse, puisqu'elle a des parents un petit peu durs aussi, mais qui est capricieuse et qui est punie parce que ses parents voulaient l'emmener au restaurant. Et elle s'est choisie un sac à main pour y aller, qui a un vieux sac en peluche, c'est un éléphant, un vieux sac dégueulasse. Et son père veut pas qu'elle l'emmène, et donc elle ne veut pas aller au restaurant. Et son père la menace de ne pas l'emmener, et qu'il partira avec sa maman tout seul déjeuner. Et elle lui répond tout à fait frondeuse, ça m'est égal. Et donc le papa en question s'accroche et s'en va avec la maman et laisse la gamine dans l'appartement. Et à peine les parents sortis, la gamine s'empare d'un mégaphone, parce que son papa est commissaire de police. Elle s'empare du mégaphone du papa.
Cette précision.
Ouais, elle ouvre la fenêtre, on est dans une cour d'immeuble où tous les appartements donnent sur la cour. Et avec ce mégaphone, elle se plaint à la cour entière qu'elle est enfermée et qu'elle a très faim. Et tous les voisins sont d'abord scandalisés, évidemment, et vont s'organiser entre eux pour faire parvenir un repas dans un panier à la petite Julie, c'est-à-dire qu'à base de cordage, un peu savant, un peu scout et de poulie, ils vont lui acheminer un panier avec un repas. Donc c'est la scène qu'on va écouter dès maintenant.
Là.
Où sont tes parents?
Ils sont partis au restaurant.
Ils t'ont pas emmené avec eux?
Non, ils m'ont laissé ici et j'ai faim.
C'est la petite du troisième à gauche.
Ah, je crois, oui. Je la connais, je lui ai déjà vendu de la pâte à modeler.
Tu veux quelque chose?
J'ai faim.
Tu viens manger chez nous?
Je ne peux pas, je suis enfermée.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Tu veux qu'on t'envoie quelque chose à manger?
On va t'envoyer quelque chose à manger.
Merci.
Tu trouves ça normal qu'ils aient laissé cet enfant seul?
Faut que c'est une honte, moi. Oh, c'est pas croyable, hein. Laisser un enfant comme ça.
Ben, s'il va arriver quelque chose.
Si jeune, hein. C'est incroyable.
Oui.
Ben oui.
Quand je pense que son père est commissaire de police.
Non, c'est pas possible.
Si, je vous assure.
Hé, où vas-tu, là? Tu vois? Bon, ben ça c'est bien, salut, amène ça. Petite fille, tu s'en as besoin de ça?
Ah, bravo les enfants. Tiens, regarde. Là, maintenant, laisse-le descendre à la verticale.
Bon appétit.
Bon appétit.
Merci beaucoup. Oh, il y a du poulet. Tout le monde m'a regardé. Tout le monde m'a regardé.
Et donc la petite Julie va pouvoir se tortorer son poulet,
se sustenter.
Voilà, tout à fait. Le ton n'est pas toujours aussi amusant et amusé au cours du film, parce que le personnage de Julien Leclous, c'est un petit enfant battu qui est vraiment le cousin 70s de l'Antoine Douanel de 1959. Hein, et lui, il offre des scènes un petit peu plus dérangeantes, parce que justement, si les autres commencent à avoir de l'argent de poche, lui évidemment n'a rien du tout. Il vit avec sa mère et sa grand-mère qui le tabassent régulièrement. Il a pas de livres à l'école. Il est très vite en marge, pique des compas dans les magasins, rentre au cinéma à l'œil et tout ça. Lui, c'est le côté un petit peu plus obscur de l'histoire. Le fétichisme de Truffaut est aussi très présent, avec par exemple une séquence qui m'avait beaucoup marqué la première fois que je l'avais vu, ce film, c'est le petit Patrick, 12 ans,
Qui vit avec son père handicapé.
Ouais, qui vit avec son père handicapé et qui tombe amoureux de la mère d'un de ses petits copains qui est coiffeuse, qui est une coiffeuse vraiment magnétique. Mmh. Et qui est vraiment, enfin, il s'imagine des scénarios abracadabrants avec elle à chaque fois.
C'est un avatar de la Delphine série.
Tout à fait. C'est vraiment Fabienne Tabar dans Baiser-Vol. Il y a vraiment une correspondance entre les deux personnages. Et il finit par aller lui acheter des fleurs qu'il lui offre de manière un petit peu gourmande. Et elle conclut en lui disant, bah, tu remercieras beaucoup ton papa. Et estomaqué, il laisse tomber son premier chagrin d'amour. Vraiment une très très chouette scène. Il y a un rapport avec la salle de cinéma aussi qui est très présent, comme c'était déjà le cas aussi dans les 400 coups où Antoine Douanel piquait des photos d'exploitation. Là, il y a trois séquences qui se passent dans un cinéma, dont une scène assez drôle qui serait tout à fait digne de l'univers de Charlie Kaufman et Michel Gondry, avec Oscar le siffleur qui est il voit ça aux actualités, c'est un gamin qui serait né d'un soldat américain et d'une femme française. Le soldat parle pas du tout français et la jeune française n'arrive pas à parler anglais, et du coup le gamin ne parle aucune langue et ne s'exprime qu'en sifflant. Et c'est assez chouette, enfin, on n'est pas très loin de Human Nature dans le principe, quoi. Et Truffaut dit avoir réalisé ce film sur la base de 12 ans de notes sur les enfants, qui était évidemment un de ses sujets fétiches, et sous le haut patronage de Victor Hugo et son art d'être grand-père, de Charles Trenet, dont la superbe chanson Les enfants s'ennuient le dimanche, je sais pas si tu la vois cette chanson.
C'est très bien. Ouais,
rythme le cœur du film, c'est une très très chouette chanson. Je suis pas fan de Trenet habituellement, mais celle-ci est vraiment bien fichue. Et puis pensez aussi à Lou Beach pour la gestion de la légèreté, l'alternance de la légèreté de la gravité. Mais il y a aussi du Jules Romain dans le projet, parce que le Jules Romain des copains, parce que les frasques des personnages du roman Les copains se déroulaient entre Issoire et Amber, et il se trouve que Thiers c'est pile à mi-chemin entre ces deux villes.
Ouais, effectivement.
Et qui y aurait songé, quoi. Voilà, donc le film marche vraiment comme un joli feuilleton, mais ça coince un petit peu plus à chaque fois qu'on est à chaque fois sont en place des scènes d'adultes, en fait. Bon, d'abord, il n'y a pas de comédien professionnel, donc on a pu entendre que là les dialogues étaient pas toujours bien dits, mais surtout c'est qu'à chaque fois qu'il a des scènes d'adultes, et en particulier les enseignants, elles sont très solennelles, très pontifiantes, souvent ennuyeuses, quoi. Toutefois, il y a quelques dialogues qui sont un petit peu plus croquignolés. Je vous propose d'en écouter un, comme celui-ci.
Et alors, vous peut-être, mais moi, c'est pendant le cours de géographie. Ça m'agace, le cours de géographie. Quand je fais le cours, j'en vois toujours deux au fond, sous une table, qui se tripotent sans arrêt.
Ça a toujours fait partie du folklore de l'école laïque et obligatoire.
Enfin, je suppose qu'ils font ça exprès pour me provoquer, parce que je suis une femme ou quelque chose dans ce genre.
Je vous rassure, c'est pas du tout parce que vous êtes une femme. Moi, chez moi, c'est exactement pareil. Alors vous, c'est les leçons de géographie, moi, c'est les leçons d'histoire.
Bon, pendant les cours d'histoire,
ouais. Ouais, j'ai remarqué ça. En plus, je me demande s'ils font pas des concours, parce que j'étais obligé de les mettre deux par table pour une histoire de livre. Ils sont donc deux par table. J'ai observé ça très souvent, mais je crois que c'est une façon de grandir.
Donc je me demande si je dois continuer à faire semblant de ne rien voir, ou à prendre des mesures, à leur parler individuellement ou tous ensemble.
Mais c'est comme vous le sentez. Moi, j'ai eu une seule fois presque un problème. Il y avait un enfant qui était plus âgé que les autres, qui avait 2 ans de plus et qui était un peu exhibitionniste, qui se montrait à la classe, tout ça. Alors je l'ai pris à part pendant la récréation et on s'est expliqué tous les deux et tout est rentré dans l'ordre.
Puis au fond, remarquez, chez les filles, c'est pareil, non ? À Lyon, j'avais une classe de filles il y a 2 ans et on avait exactement le même problème.
Bah vous voyez.
Oui, de toute façon, l'école sera mixte l'année prochaine ici.
Là, les problèmes deviennent complètement différents. Mon beau-frère, qui a une classe qui est devenue mixte, m'a expliqué que les gosses pratiquement retombent en enfance. C'est-à-dire, ils sont intimidés, d'autres problèmes.
Voilà, donc c'est parfois un peu plus amusant, mais c'est pas toujours bien dit. Jean-François Stévenin, qui était d'abord l'assistant de Truffaut, qui donc a le rôle ici de Monsieur Richel, l'instituteur, il le dit pas super super bien son texte.
Non, mais ce qui est amusant, c'est que c'est aussi un témoignage historique, quoi, période que peut-être nos plus jeunes auditeurs ont oublié, qui est pas si lointaine.
Moi-même,
je
l'ai pas connu personnellement.
Les écoles étaient pas toutes mixtes, quoi. La mixité, c'est vraiment quelque chose qui est apparu à la fin des années 60, et là, on en était au premier moment, quoi. Ouais. Et encore, apparemment, pas partout. Quoi. Pas le cas à Thiers.
Enfin voilà, donc de manière globale, la dernière partie de carrière de Truffaut, hormis le surestimé à mon goût et surrécompensé Dernier Métro, est de toute façon moins connu et moins cité que ses débuts, que la saga Douanel et tout ça. Et dès lors, ce film qui a pas une trame très forte, qui a pas de vedette à l'écran, a pas suscité l'intérêt qu'il aurait pu, alors que je vous assure qu'il y a vraiment de vraies qualités intrinsèques et qu'on peut pas s'empêcher de penser qu'un film pareil a pu influencer Le Tavernier de Ça commence aujourd'hui, par exemple. et qu'en échange de bons procédés aussi, L'enfance nue de Piala, qui est un film de 68 qui devait pas mal aux 400 coups. Là par contre, Truffaut pourrait s'être un petit peu inspiré du ton de cette jeunesse des années 70 qui était déjà plus la même évidemment que celle des années 60 quoi. Donc à mes yeux, il n'y a pas de raison majeure ni de rupture ou d'histoire personnelle pour justifier le fait que L'argent de poche soit plus confidentiel que d'autres films de Truffaut. Peut-être qu'à cette heure-là en France, on était plus tourné vers l'originalité et la provocation type Bertrand Blier qui était vraiment naissant, ou même carrément du star system ambiant avec des gens comme Delon, Bebel ou Ventura qui squattaient pas mal les écrans quoi. Mais enfin bon, ça vaut le coup d'être réévalué, je vous assure. Donc si vous pouvez essayer de voir L'argent de poche de François Truffaut, ça serait une bonne chose.
Alors en revanche, mon cher Mariac, moi en ce qui concerne le disque que j'ai choisi maintenant, il s'agit bien d'un disque né d'une rupture. Alors le groupe dont je vais vous parler, c'est un groupe dont vous devez finir par être familier si vous êtes des familiers du New Breakfast Club. C'est
il s'agit de Black Sabbath.
Non, il s'agit des Beach Boys.
Oh, pas loin.
Tout le monde sait, ou presque, le moment le plus magique pour les Beach Boys, le moment où ils enchaînent les hits, c'est à la fois l'été, mais l'été du milieu des années 60, allez, pour aller vite, entre 1964, 1963, hein, Symphony USA, et 1967, avec God Vibration. Entre ces deux pôles-là, les Beach Boys alignent hit sur hit,
oui, c'est ça, oui.
Basé aussi, effectivement ouais. Sur, même s'il y avait des choses plus intimes et déjà des premiers nuages, mais basé sur une glorification des joies estivales, du surf, des voitures rapides, des jolies filles et tout un folklore allant de pair. Et puis en 1967, même si je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait des signes avant-coureurs. Brian Wilson, tout d'un coup, pète les plombs. Alors, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié à une compétition qui devient trop difficile à vivre pour lui, qui devient trop stressante. Compétition qu'il s'est donné lui-même avec les Beatles.
Avec les Beatles et McCartney, ouais, plus précisément. Ouais.
Voilà, enfin, avec d'autres groupes aussi des années 60. Et à partir de ce moment-là, compétition, consommation de drogue font que Brian Wilson va lâcher les rênes quasiment de son propre psychisme et va s'enfermer dans une situation quasi autiste où il va refuser de tourner. Ça, il l'avait fait déjà depuis 1964, mais il va refuser de continuer à enregistrer avec les autres. Il va se mettre à l'écart de tout le cirque rock and roll. Les Beach Boys vont passer à côté des grands festivals hippies, je pense à Monterrey, Woodstock un peu plus tard en 1969, et les Beach Boys, qui étaient extraordinairement relevant, extraordinairement pertinents au milieu des années 60, vont se retrouver quasiment comme le premier groupe largué d'Has Been en 1968-1969. Et au lieu d'essayer de redresser la barre, au lieu d'essayer de faire des chansons engagées, comme beaucoup de groupes à ce moment-là, je pense, ou notamment, ils vont au contraire creuser une veine qui est celle d'un groupe très très léger, attaché à des joies simples comme faire du patin à glace sur un étang gelé en hiver, comme participer aux joies du cocooning des enfants, des choses qui étaient évidemment pas du tout dans l'air du temps. On est très très loin du flower power, on est très très loin du psychédélisme dans les disques de la fin des années 60 pour les Beach Boys. Ce sont les disques très très peu connus, sauf pour les Beach Boys Addicts, très très peu connus, d'abord parce qu'ils recèlent très très peu de hits. Et le disque que j'ai choisi, je vais enfin cracher son nom, qui s'appelle Friends, qui d'ailleurs pendant très longtemps sera considéré par Brian Wilson lui-même comme son disque préféré. Et pourquoi Brian Wilson le considère-t-il comme son disque préféré? Parce que justement c'est un disque qu'il a composé, contrôlé et à l'écart des pressions, puisqu'il avait perdu la compétition avec les Beatles à cause de Sgt. Pepper's. Comme il avait perdu la compétition, eh bien il allait pouvoir se resserrer sur des choses plus intimes, plus personnelles, ouais. plus secrètes, et évidemment il allait aussi se couper d'une majorité des adolescents américains des années 60. Oui. Et les Beach Boys allaient devenir ce que les Bee Gees étaient en Angleterre au même moment, des groupes du passé qui n'avaient plus aucun intérêt et dont on rigolait, dont on se moquait. Une dernière chose avant d'en écouter un extrait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que Brian Wilson qui est à l'œuvre dans ce disque. C'est-à-dire que pour chacun des autres membres du groupe, à la fois pour les deux autres frères Carl et Dennis, et pour le cousin Mike et Al, c'est aussi le moment pour eux de pouvoir évoquer leur passion. Et donc c'est ce qui donne des morceaux assez étonnants comme Busy Doing Nothing, le morceau qu'on va écouter maintenant, c'est-à-dire fatigué à ne rien faire. I had to fix a lot of things this morning, 'cause they were so scrambled. But now it's okay, I tell you I've got enough to do. The afternoon was filled up with phone calls. What a hot sticky day, the time you need. It's a lovely night. If you decide to come, you're gonna do it right. Drive for a couple miles, you see a sign and turn left for a couple blocks. Next is mine, you'll turn left on a little road. It's a bumpy one, you'll see a white fence. Move the gate and drive through on the left side. Come right in and you'll find me in my house somewhere. Busy while I wait. I get a lot of thoughts in the morning. I write them all down. If it wasn't for that, I'd forget them in a while. And lately I've been thinking about a good friend I'd like to see more of, yeah. I think I'll make a call. I wrote a number down, but I lost it, so I searched through my pocketbook. I couldn't find it, so I sat and concentrated on the number, and slowly it came to me. So I dialed it and I let it ring a few times. There was no answer, so I let it ring a little more. Still no answer, so I hung up the telephone. Got some paper and sharpened up a pencil and wrote a letter to my friend.
Petit intermède paresseux. Hein.
Oui, voilà, ouais, exactement. Ouais. C'est un hymne à la paresse, un hymne.
C'est réussi. Hein. Moi, j'ai failli faire une sieste. Hein. Non, mais c'est très, 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 très chouette. Ça me plaît beaucoup.
Oui, mais ça veut rien dire. Il y a des morceaux où on s'endort et après on se retrouve au paradis.
Oui.
Ça peut être le.
Retire ta main, s'il te plaît.
Ça peut être le cas. Bon. Oh non, qu'est-ce que les auditeurs vont croire après. Bon allez, on traîne pas parce qu'on
on
a
traîne
encore
pas, on a de la route. Hein.
Ouais ouais, et puis on a il y a encore beaucoup de d'œuvres à traiter. Alors j'aimerais vous parler cette fois-ci d'un film, mais pas par rapport à un metteur en scène, pas par rapport à l'œuvre d'un metteur en scène, par rapport à un acteur que j'aime beaucoup, que je vénère même, qui est très très connu des Français, qui doit rester d'ailleurs pour
le number one. Hein,
le qui bien. Reste le number one, je pense, pour les Français de plus de 40 ans.
C'est-à-dire tous les Français.
Oui, c'est mon corps.
C'est
le gars mon corps. C'est Jean Gabin. Alors, quel film j'ai choisi dans l'immense œuvre de Jean Gabin?
La pléthorique.
Plus de 150 ouais. films quand même.
Ouais, hein. Ouais, ouais.
Mais j'ai choisi un film assez emblématique, assez symptomatique de la traversée du désert de Jean. Alors, pour simplifier, alors que les fans m'excusent et n'écrivent pas directement à la radio, quoi qu'ils peuvent écrire à la radio. Mais l'œuvre est tellement immense que j'ai besoin de simplifier un petit peu. Il y a globalement deux périodes dans la carrière de Gabin. Il y a celle d'avant-guerre, les films de Renoir, les films de Grémillon, celle où
du lyrisme réalisme.
Voilà, où Gabin joue la belle gueule, la gueule d'amour, et
plutôt prolétaire.
qui se retrouve embringué dans des histoires d'amour où il est fasciné par des beautés ténébreuses et qui généralement
et à la fin il meurt ou il part.
Voilà, exactement, qui tourne mal pour lui, mais c'est le séducteur un petit peu apache hein, sur
les
bords.
Ouais. Ça c'est la première période.
C'est avant la guerre. Puis la guerre est une véritable période de rupture d'abord parce qu'il tourne très très peu.
Parce qu'il s'en va aussi.
Oui, il part à Hollywood où il rencontre Marlene Dietrich, ça va avoir de l'importance pour la suite. Donc il tourne trois films simplement pendant il y a remords quand même. Trois films pendant la période de guerre. Il s'ennuie comme un rat mort à Hollywood. Hollywood lui convient pas pour tout un tas de raisons.
Tu nous as pas cité sa deuxième période. Tu t'es embarqué dans la brèche. La deuxième période, c'est celle qui imite très bien Patrick Sébastien, tout simplement.
C'est celle du patriarche.
C'est le pacha, c'est le patriarche ou le vieux flic à qui on la fait plus.
Une période qui peut avoir ses moments de jouissance, mais qui est globalement une période de prise de risque minimale pour.
À partir de là, il laisse les choses aller, quoi. Il se mouille pas trop. Il a une petite famille qui est bien rassurante et il a à peu près toujours le même office, quoi.
Et entre les deux périodes, il y a donc ce moment dans la carrière de Gabin qui va de 1943 jusqu'à Touchez pas au Grisby, hein, c'est-à-dire jusqu'à 56, pendant 13 ans, qui est important pour la carrière d'un acteur parce que c'est le moment où Gabin va prendre 40 ans, c'est-à-dire toute cette décade-là, cette décennie où Gabin est dans ses 40s. Où il va enchaîner pas bit sur bit, c'est peut-être allé un petit peu mais des films qui marchent moins bien. Et surtout, il a cette impression que les Français ne veulent plus lui, n'acceptent pas qu'il vieillisse. Et Martin Roumaniac est symptomatique de cette période-là parce que c'est un projet dans lequel Gabin s'est énormément investi, qui va être un vrai four. Financièrement parlant
bien
et
sûr,
qui mettra beaucoup de temps avant de s'en remettre, même après Martin Roumaniac, il y a 2 ans avant son prochain tournage. Et Gabin, qu'on imagine, pour ceux qui ont une vision un petit peu caricaturale du cinéma français des années 60, qui ont cette image Gabin premier rôle et qui distribue les répliques aux autres rôles, eh bien se retrouve parfois dans des rôles de second plan. Hein, on pense par exemple au film de Coin, la vérité sur Bébé Donge.
Ou La Ronde de Max Ophuls.
Voilà, mais je reviens sur Martin Roumaniac. Martin Roumaniac, qui est un roman dont
Gabin a acheté les droits pendant la guerre.
Voilà, exactement. Donc c'est preuve qu'il il y tenait beaucoup. Raconte l'histoire d'amour entre un entrepreneur, un maçon, avec une femme avec un passé assez mystérieux, qui est joué par Marlène Dietrich. Marlène Dietrich, qui était sa maîtresse pendant la guerre, et les
à Gabin, pas au personnage, hein. Qui était vraiment la maîtresse de Gabin.
Oui, d'accord. Absolument. Mais qui est aussi
c'est pas toi que je l'apprends.
Non, mais c'est pour ça que le film est intéressant, parce qu'il y a aussi sans doute
leur propre histoire.
Voilà, il y a leur propre histoire qui est en jeu ici. Et on va écouter tout de suite un premier extrait. Dans ce premier extrait, qui est pratiquement le premier dialogue construit entre Blanche Ferrand, le personnage joué par Dietrich, et Martin Roumaniac, le moment où il y a la cristallisation du sentiment amoureux.
Alors Martin, tu vas tout de même le construire, cet hospice, oui ?
Ouais, et puis on t'y gardera un lit pour qu'on t'aura fait faillite, toi, empoisonneur.
Farceur, hein.
Oh, eh ben, je suis belle.
Ah, bah forcément, vélo. Vous habitez loin ?
À l'autre bout de la ville. Je tiens un magasin d'oiseaux avec mon oncle.
Oh, bah je vous voyais pas du tout dans un commerce. Vous êtes étrangère, hein ?
Non, je suis née en Australie.
Ah, bah c'est loin, ça. Et il y a longtemps que vous êtes ici ?
3 ans.
3 ans. Alors il aurait fallu 3 ans pour que je vous rencontre. 3 ans et puis rien ne passe la tête, voyez. Voyez, avec moi, quand je quitte mon chantier, c'est pour aller dans les magasins d'oiseaux.
Vous n'aimez pas les oiseaux ?
Ah si, mais sur l'arbre, comme les fruits. J'aime bien les choses naturelles, moi, vous savez.
Sans savoir.
Je suis pas un compliqué. Moi, je trouve que la vie est belle, mais pas vous.
Oui, mais moi, je trouve la gens tristes.
Oh, le fait est que des fois. Bon, souvent c'est parce qu'ils savent pas quoi faire de leur vie, ouais. Moi, vous voyez, hein, j'ai mes mains. Et moi, avec mes blocs de meulière, mes briques, puis mes moellons, bah, je suis heureux comme un gosse. Ça, vous savez, hein, c'est beau une pierre, une belle pierre.
Oui, je comprends.
Parce qu'on dit que c'est froid, que c'est dur, mais c'est doux, c'est chaud.
Et ça embellit en vieillissant.
Ah, bah, dites donc, vous, pour parler comme ça, je parie que vous avez une maison à la campagne.
Non.
Ah, bah, vous devriez.
Oh, vous savez, je compte pas me fixer dans ce pays.
Quoi, vous voulez partir? Mais il n'y a pas plus beau que Paris ici. Moi, je connais bien toute la région, tous les points par ici, puis il y en a des patents.
Oui, je sais. Où je dois rentrer? On m'attend pour déjeuner.
Déjà? Permettez que je vous fasse un petit pas de conduit?
Oui.
C'est marrant que dans cet extrait, Gabin essaye de convaincre le personnage de Marlène Dietrich de rester, parce qu'il l'avait déjà convaincu dans la vraie vie de venir en Europe, parce qu'il lui avait garanti que sa carrière rebondirait en Europe et non plus aux États-Unis.
Et ce qui est intéressant, c'est aussi la raison pour laquelle ils se sont séparés, parce qu'il y a un moment, Gabin qui voulait s'installer, je pense qu'il pensait peut-être aussi avoir des enfants, lui a dit tu fais le choix quoi. Ouais, soit tu retournes à Hollywood parce que Dietrich trouvait pas de rôle à sa mesure dans une France où la production cinématographique était pas pléthorique à la fin des années 40.
Non, donc elle avait pas propice aux Allemandes.
Non plus.
Il faut avouer.
Il faut aussi dire la vérité. Hein. Les choses ont heureusement bien changé depuis. Mais donc elle avait besoin d'autre chose, de strass, de glamour. Et Gabin pouvait pas lui donner. Et Gabin lui a dit de toute façon, si tu pars, c'est terminé. Et ce fut effectivement réellement terminé. Un petit peu comme l'histoire va se terminer dramatiquement dans le film pour d'autres raisons.
Et quasiment
raisons.
Instantanément, parce que enfin c'est aussi au sortir de ce film-là qu'ils sont séparés. Leur couple a pas survécu très longtemps. Ah,
le film a signé le glas de leur relation. Alors justement, puisqu'on parle de dispute, on va en entendre une au sujet du consul, parce que Dietrich a un rôle très intéressant, très ambigu, et joue double jeu. Elle est à la fois très amoureuse de cet entrepreneur, mais elle a besoin d'autre chose, d'une assise financière que ne lui permet pas son oncle, qui tient une petite boutique donc de grainerie et d'oisellerie, et Martin Roumania, qui est un entrepreneur qui débute, qui a pas encore les reins suffisamment solides pour lui offrir des nouvelles parures, des nouvelles robes. Donc elle pense pouvoir devenir la femme du consul qui vient de perdre enfin son épouse.
Oh, c'est toi, je dormais.
Excuse-moi, mais moi j'ai pensé toute la nuit à t'attendre là dans la bicoque. Pourquoi t'es pas venu?
Parle pas si fort.
Ah, c'est vrai, j'oubliais. Consul. Sa Majesté le Consul, il dort, lui. J'espère que ses fenêtres sont bien fermées puis que le vent ne l'a pas dérangé. Parce qu'il y a eu un drôle d'avant cette nuit, puis il était proche, tu peux me croire.
Ne sois pas ridicule.
Ridicule? C'est cette nuit que j'ai été en t'attendant, oui. Pourquoi t'es pas venu?
Tu tiens absolument à la réveiller.
Depuis quand je la réveillerai? Quoi? C'est un monde, ça, non? Puis qu'il est là, ce monsieur, je peux plus le voir, et maintenant je peux même plus parler. Tu vas dire pourquoi t'es pas venu?
Je n'ai pas pu, voilà.
Il a tout de même pas passé la nuit avec toi, non?
Oh, tu es vraiment trop bête.
Ouais, je sais, j'ai pas l'éducation, moi.
Écoute, il vaut mieux que tu partes. Si tu as des ennuis dans ton travail, je ne suis pour rien. Je t'assure, il vaut mieux que tu t'en ailles.
C'est ça, l'écurie, hein? T'as raison, bah, vaut mieux que je foute le camp.
C'est stupéfiant comme Marlène Dietrich a pas un pet d'accent.
Non, c'est incroyable.
C'est impressionnant.
Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Elle a eu une gouvernante française dans son éducation, et au collège, elle avait une institutrice française dont elle était secrètement amoureuse. Donc ça aide à apprendre la langue. Et tu vas pouvoir encore mieux l'apprécier sur l'extrait suivant, où elle se dispute avec celui avec lequel elle s'est engagée, le consul de l'Aubry, justement au sujet de Martin Roumaniac, ce qui prouve que elle l'aime encore beaucoup.
Roumaniac vous tutoie?
Je croyais que vous m'aviez offert une association et qu'il n'était pas question de sentiments entre nous.
Parfaitement exact.
Alors, d'autant que je ne suis pas encore madame de l'Aubry.
Mais, ma chère, même si vous l'étiez, vous seriez libre. Encore faut-il choisir vos partenaires. Je vous accorde que Roumaniac est le meilleur des hommes, mais ce qui me gêne en lui, je vous demande pardon, c'est le maçon.
Évidemment, ça a des classes.
Il n'a que de bons sentiments, mais les bons sentiments avec des fautes de syntaxe.
Tout le monde ne peut pas jongler avec le vocabulaire.
Mais bien sûr. Roumaniac a le cœur sur la main, mais les mains d'une propreté douteuse.
C'est moins grave que d'avoir une âme malpropre.
On dit ça. Mais dans un salon, une âme noire, c'est moins voyant que d'avoir les ongles en deuil. Parlons sérieusement, cher ami. Cet ouvrier qui sent le gros vin rouge et le mortier, l'odeur du mortier ne vous incommode pas?
Moins que l'odeur d'un cadavre.
Mais sérieusement, je comprends pas.
Votre femme, dont vous guettiez impatiemment les millions,
cette mourante que chaque jour pendant 2 ans vous avez enterrée en pensée. Joli cadeau de fiançailles que vous m'avez apporté là. Un cadavre.
Eh bien, voilà un entretien instructif. Je vois le genre de partenaire qui vous convient. Aujourd'hui, le bâtisseur de maison, demain, les gens de maison. Le maître d'hôtel, le chauffeur.
Cujas, vos maniaques vaut 100 fois mieux que vous.
Admirable Marcel Héran, admirable second rôle de cette période.
Non mais c'est fou parce que c'est un film qui encore aujourd'hui est très 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 peu apprécié, très peu apprécié avec un Z, hein, vous l'aurez remarqué, peu apprécié par la critique contemporaine.
Tu veux dire qu'il a une super mauvaise réputation parmi les gens qui l'ont pas vu d'ailleurs.
Moi, il se trouve que je l'ai pas vu ce film-là, mais là ça fait 3 extraits où la qualité du dialogue est quand même assez stupéfiante quoi.
Et la qualité de l'interprétation.
Ouais.
On parlait tout à l'heure de Truffaut qui avait des acteurs qui flottaient un petit peu
par contre, là,
dans
joue,
le rôle.
Là ça joue. Hein.
Et ça joue bien et ça parle bien.
Ouais. T'as encore un petit extrait avant qu'on essaie d'analyser les raisons de ce flop.
Ouais, mais là c'est un vrai plaisir, c'est Jean qui vient de se fâcher définitivement avec Blanche et qui entend toute la ville murmurer avec lui. On sent que le problème du déclassement est très important dans cette France encore très très centrée sur les classes sociales. On ne peut pas accepter qu'un maçon vive et une relation suivie avec une fille de la haute.
Il manquerait plus que ça.
Salut, Romagnac.
Ça va?
Ça va.
Bonjour.
Dis-moi, demain, je peux te dire un mot?
Oui.
Permettez, hein?
Ça, nous deux blancs.
Bah, dis donc, je suis emmerdé, je viens d'avoir un gros coup dur. Alors, je t'avais demandé si tu pouvais pas m'avancer 50 billets. Enfin. Pour un mois, quoi, le temps de me retourner. Comme t'es un copain, je me suis dit que...
Bon, t'as bien fait. Seulement, comme par un fait exprès, j'ai eu des grosses sorties toute cette semaine. Ah. Bon, le commerce, tu sais ce que c'est. Les traites, le réapprovisionnement. Ah. L'argent n'est pas si tôt rentré.
Ah oui, je comprends.
On n'a jamais de liquide.
Ah oui, te fatigue pas, là, j'ai compris. J'ai eu tort d'oublier que dans le commerce, comme tu dis, on n'avait jamais d'argent. Enfin, ça fait rien, je te remercie quand même. Combien je dois, là?
Oh, tu veux rire?
Non.
Mais non, c'est pour moi, je t'en prie.
Bon, ça va. Merci.
Le commerce. La Ferrand aussi dans le commerce. Il n'y a qu'à lui en demander de l'argent à elle. Je lui ai pas fait construire une villa à l'œil, moi. Hein.
Tu manques un peu de poitrine pour ça.
Ah, alors.
Elle est avec lui par intérêt, voyons. Elle vend des petits oiseaux, mais les pigeons, elle les plume.
Il paraît que le soir, dans l'appartement au-dessus du magasin, il se tient une drôle de petite réunion. On doit pas s'embêter.
Alors, tu vas?
Oui.
Qu'est-ce que t'as dit, toi?
Qu'est-ce que j'ai dit?
Oui, toi, mais
c'est que tout le monde dit que j'ai dit la vérité.
Des fumiers, hein. Vous êtes tous des fumiers, vous bavez sur ce que vous pouvez pas avoir, hein. Vous êtes à gueuler contre le bourgeois, contre l'équipe de la haute, mais quand c'est un comme moi, moi le maçon, ou un comme vous qui touche à une fille comme ça, ça vous emmerde encore plus, hein.
Qu'est-ce qu'il lui prend?
Le roman d'origine est de Pierre-René Wolf, dont j'ignore tout, hein, très honnêtement. Je peux pas citer ni un autre titre, ni dans quel courant il s'inscrivait.
Moi non plus.
Mais par contre, l'adaptation, elle est de Pierre Véry.
Ouais, qui avait travaillé sur les disparus de Saint-Agile.
Et sur l'assassinat du Père Noël de
Christian
Jacques.
Ce que je trouve
intéressant
dans les extraits, c'est que le côté anarchiste de droite, il est déjà présent dans ce personnage d'entrepreneur.
Ouais.
Donc, avant Audiard, avant même la traversée de Paris et son personnage d'architecte, le
avant
salaud
le
pauvre, d'hiver
et compagnie,
il est déjà en gestation.
Absolument.
Ici, alors c'est un film, c'est dommage parce que le temps nous manque, il faudra encore une heure pour pouvoir développer ça, mais qui est vraiment à réévaluer. Je vous essayez de le trouver, il est passé au Ciné-Club il y a 3 mois.
Alors, il doit exister en DVD en plus.
C'est vraiment un très bon film.
Ouais, donc c'est un film de Georges Lacombe, hein. C'est un ancien assistant de René Clair. Ce mec-là, il l'a fait tourner Piaf, Pierre Frenner, Ému et compagnie. Et Gabin retournera avec lui dans cette période creuse, justement, au tout début des années 50, dans La Nuit et mon royaume. Et
que je n'ai pas vu.
On a accusé donc Lacombe d'être juste le faiseur pour Gabin, que c'était Gabin qui contrôlait tout. Mais c'est parce que c'est un moment où Gabin, du fait qu'il peut plus avoir ses emplois de Titi parisien, de gueule d'ange image qu'il avait auparavant, il veut prendre son image en main, quoi. Il veut prendre son image en main, il amène le roman, et pendant une dizaine d'années, il va essayer de trouver son nouveau personnage, ce qu'il parviendra pas à faire tout seul, en fait. De prendre le contrôle, ça y a pas vraiment réussi, parce que le film va aussi sortir aux États-Unis, Marlène Dietrich va le faire remonter, et le sortir aux États-Unis sous le titre Room Upstairs, et ça va être un beat pareil, quoi.
Alors le problème, c'est à qui la faute ? Est-ce que c'est la faute du public qui pouvait pas accepter qu'on donne ce rôle de femme indépendante libre qui gère elle-même sa vie amoureuse à Marlène Dietrich, qui était une Allemande, même si elle avait combattu aux côtés des anti-nazis ? Est-ce que le public n'avait pas pardonné à Gabin d'avoir vieilli,
d'être parti aux États-Unis ? Il a fait deux films là-bas, un sous la direction de Julien Duvivier, qui était aussi réfugié là-bas,
qui était un film de combat.
Ouais, mais qui est sorti en France en VO sous-titré, ouais. Et Gabin a passé le post-synchronisé. Il a eu lui aussi une trouille, et peut-être qu'il y a eu une incompréhension au moment de la guerre, parce qu'il est d'abord, il a d'abord fui, prétextant un tournage à faire avec Fritz Lang, d'ailleurs, qui s'est barré après 4 jours, et c'est un film d'Archie Maillot, ça doit être je n'ai plus le titre en tête, non, ça me revient plus. Mais ensuite il va s'engager, finalement il va regretter, il s'engage, il revient en France, il va faire partie de la division Leclerc, et il va être à nouveau en France. Mais est-ce que c'est ce trouble là, cette perte là, parce qu'il voulait pas travailler pour la Continentale, contrairement aux gens comme Clouseau et tout ça, il s'était barré aux États-Unis. Donc il s'en va, il revient, il vieillit entre-temps, ses cheveux blanchissent pendant la guerre, il peut plus jouer les rôles précédents, il y a un flou artistique, quoi. Il est vraiment dans une articulation de sa carrière.
Mais en même temps, il a toujours cette assise, ce don hors pair pour débiter les dialogues. Il y a toujours une force. Enfin, je sais pas si t'as ressenti ça.
Si, bien sûr.
Oui,
non, il a l'air en pleine possession de ses moyens quand même. Ouais. C'était La péniche de l'amour, le titre du film qu'il a tourné aux États-Unis.
Et au point de vue cinématographique, alors je sais pas si on doit lier ça à Georges Lacombe ou au chef opérateur qui était le même que celui des Enfants Paradis et des Visiteurs du soir de Carnet. Il y a des moments qui sont assez hallucinants, notamment un moment où Dietrich, le personnage de Blanche Ferrand, étouffe complètement dans cette petite ville de province, dans cette France rance avant la lettre, et décide d'ouvrir toutes les cages et aller filmer derrière les barreaux des grilles. Alors je ne veux pas citer le nom de Clouseau, qui est peut-être un nom un petit peu trop grand, trop vaste pour Georges Lacombe, mais on y pense, et la fin, très très belle, avec le personnage de Daniel Gélin intervenant en Deus Ex Machina, et il y a une ambiance de film noir, et je pense que Lacombe y avait été sensible, au moment où Gabin entend sa sœur lui dire au revoir Martin, il s'effondre, et le point, le focus se fait sur le journal laissé à terre, Martin Romagnac libéré, et ben ça de la gueule.
Ouais. Vraiment. Donc bah cet arbre caché par la forêt.
On rappelle le titre du film dont on parlait, Martin Romagnac, de Georges Lacombe, un film de 1946.
Donc tu nous conseilles de le voir. Moi je vais le regarder ce soir, venez tous à la maison, on se le passe ensemble et on en parle après avec
plaisir,
une baguette et du fromage. Bon, cette semaine c'est à toi de jouer. La semaine dernière, j'avais eu chaud juste avec les Sparks.
Je suis sur les charbons ardents.
Voilà. Donc on va pas perdre de temps. Essaye donc, micro ouvert, de me trouver ça.
Allez. Oh, je connais que ça. Oh, j'adore. Je voulais te le faire écouter, Fieri Fernasez.
Alors là, ça va vite, là.
Here Comes the Summer. Oui, le champion. Summer, voilà. Oh, c'est un titre
alors,
extraordinaire.
Ça n'a pas
magnifique.
Alors le mieux, tais-toi 30 secondes qu'on l'entende un tout petit peu. Marks of charcoal from the dew. Bon bah voilà, alors là je crois que c'était le blind test le plus rapide. Hein,
ouais, tu sais qu'on pourrait faire une émission rien que sur ce morceau-là, les chansons d'été. Parce que moi j'ai remarqué que les chansons qui annoncent l'été sont parfois meilleures que l'été lui-même.
Voilà, le tout en fin janvier 2006.
Et on a besoin de chansons comme Here Comes the Summer.
Voilà, au moins pour tenir jusqu'à la semaine prochaine. Salut à tous.
Avec une nouvelle édition. Allez, salut maintenant.
your fingers.